Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer sur les versets 1 à 5 de la Sainte Sourate Qadr. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر بسم الله
وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وذق الله العلي العظيم.
Oui, nous avons fait descendre ceci, la nuit de la détermination. Et qui te dira ce qu'est la nuit de la détermination? La nuit de la détermination est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci descendent les anges, ainsi que l'Esprit, par permission de leur Seigneur, avec chaque commandement une paix, cela jusqu'à l'apparition de l'aube.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes le jeudi 25 Aban, 1402 du calendrier iranien, 16 novembre 2023. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information suivi d'un commentaire politique. Aucune preuve sur des tunnels du Hamas sous l'hôpital Al-Shifa, a rapporté la chaîne CNN. La pause humanitaire à Gaza ne signifie rien d'autre que la poursuite des massacres et de la famine du peuple palestinien, a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères. La résolution de l'Assemblée générale de l'ONU, rédigée par le Canada et partiale, est politiquement motivée, a déclaré la représentante iranienne auprès des Nations Unies. Israël frappe les hôpitaux de Gaza sous prétexte de commencer une chasse souterraine. C'étaient les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a enfin adopté une résolution appelant à des pauses humanitaires urgentes et à des couloirs humanitaires à Gaza. Le Conseil de sécurité de l'ONU a appelé à des pauses humanitaires et prolongées dans la bande de Gaza, rompant son silence après 40 jours d'une guerre génocidaire menée par le régime israélien contre la population civile de Gaza. Les États-Unis, la Russie et la Grande-Bretagne, qui disposent d'un droit de veto en tant que membres permanents du Conseil, se sont abstenus lors du vote sur le projet de résolution soumis par Malte. Les 12 autres membres ont voté en faveur de ce projet de résolution. Le ministre iranien des Affaires étrangères affirme que la soi-disant pause humanitaire à Gaza ne signifiait rien d'autre que la poursuite des massacres et de la famine du peuple palestinien sans défense. Hossein Amir Abdullahian a déclaré « Israël et certains de ses partisans proposent des pauses humanitaires pour gagner du temps et commettre davantage de crimes contre les Palestiniens. Il a exhorté la communauté internationale à œuvrer pour mettre un terme immédiat et inconditionnel au génocide israélien à Gaza. Il a également appelé à une livraison sans entrave de l'aide humanitaire à Gaza et dans un délai raisonnable. Le chef de la diplomatie iranienne a réitéré le droit des Palestiniens à l'autodétermination. Amir Abdullahian est à Genève pour promouvoir les efforts diplomatiques ayant pour but de mettre fin à l'attaque israélienne contre Gaza. Il a déjà rencontré plusieurs responsables de l'Organisation des Nations Unies et d'autres personnalités internationales. L'Iran a rejeté avec véhémence une résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies rédigée par le Canada sur la situation des droits de l'homme en République islamique d'Iran, la qualifiant de partiale et de politiquement motivée. L'ambassadrice adjointe de l'Iran auprès des Nations Unies, Mme Zahra Ershadi, a qualifié la décision du Canada d'hypocrite, ajoutant que l'exploitation des droits de l'homme à des fins politiques devrait concerner tous les membres de l'ONU. Zahra Ershadi a souligné que même si le Canada assume une position morale élevée pour fustiger les autres nations, il ferme les yeux sur la découverte chaque année de nombreux corps d'enfants autochtones sur son sol. Elle a également énuméré les crimes commis par Israël contre les femmes et les enfants dans le cadre de sa guerre génocidaire dans la bande de Gaza assiégée, dénonçant le plein soutien des États-Unis au régime de l'apartheid israélien. Le génocide israélien dans la bande de Gaza est entré dans son 41e jour, alors que le régime fasciste d'Israël continue de bombarder l'enclave côtière sous blocus, sous prétexte de poursuivre sa chasse aux combattants du Hamas dans les labyrinthes souterrains au-dessous des hôpitaux de Gaza. Israël a ainsi concentré ses raids sur l'hôpital Al-Shafa, en violation du droit international qui reconnaît que même en temps de guerre, les centres médicaux doivent rester les lieux sûrs pour tout le personnel médical et les patients. Selon les autorités de santé de Gaza, les bulldozers et les chars de l'armée israélienne ont détruit une partie de l'entrée sud du complexe médical. Des sources locales ont indiqué que des bulldozers et des chars israéliens avaient attaqué l'entrée ouest du complexe. L'armée du régime sioniste a confirmé que son raid sur l'installation, qui a commencé mercredi, continue de cibler les combattants du Hamas. Les responsables de l'hôpital et les médecins affirment que l'approvisionnement en eau du complexe est presque à sec, ce qui met en danger la vie des patients et des personnes hospitalisées. Selon l'armée israélienne, au moins 7 soldats ont été blessés, dont un grièvement, lors de la fusillade palestinienne. L'incident a eu lieu au point de contrôle qui suivait l'accès au tunnel routier reliant la Cisjordanie occupée et Qods. Le régime sioniste a intensifié ses attaques sanglantes en Cisjordanie. Plus de 190 Palestiniens ont été tués par les forces israéliennes et les colons dans les territoires occupés depuis le 7 octobre. C'est à ce moment-là que le régime sioniste a commencé son attaque contre la bande de Gaza assiégée. Et enfin, le mouvement libanais Hezbollah continue de frapper les positions israéliennes le long des zones frontalières pour soutenir la résistance palestinienne dans la bande de Gaza. Le mouvement a annoncé dans des déclarations distinctes avoir lancé mercredi des roquettes et des missiles guidés et de haute précision sur 7 sites militaires israéliens dans le cadre de ces opérations. Chers auditeurs, c'est la fin de notre journal. Restez à l'écoute de notre commentaire politique. Malgré l'affirmation du régime israélien selon laquelle il existait des tunnels secrets du Hamas sous l'hôpital Al-Shifa à Gaza, la chaîne CNN a reconnu qu'aucune preuve n'existait à ce sujet pour le moment. La chaîne de télévision CNN faisant référence dans un reportage à la récente allégation du porte-parole de l'armée israélienne selon laquelle l'hôpital Al-Shifa a été construit sur des tunnels souterrains appartenant au groupe palestinien Hamas, a révélé. Il n'y a toujours aucune preuve sur l'existence du réseau de tunnels sous cet hôpital de la ville de Gaza. Alors que le porte-parole de l'armée israélienne, Daniel Hagari, affirme avoir découvert des traces des armes et du matériel de renseignement à l'hôpital Al-Shifa, appartenant au Hamas, la chaîne CNN confirme que rien n'indique pour l'instant que les troupes israéliennes aient découvert une structure de tunnel à plusieurs niveaux avec des chambres souterraines du type illustré dans une animation présentée par le porte-parole de l'armée lors d'un briefing il y a près de 3 semaines. Israël subit d'importantes pressions internationales pour prouver ses allégations sur l'infiltration de l'hôpital par le Hamas, afin de justifier certaines de ses agressions militaires qui pourraient autrement constituer une violation grave du droit international humanitaire, indique le média américain. Le Hamas et les responsables de l'hôpital ont toujours rejeté les affirmations d'Israël selon lesquelles le Hamas aurait construit un centre de commandement sous l'hôpital, selon la chaîne de télévision CNN. Les organismes de défense des droits de l'homme ont fermement condamné leur aide israélienne sur l'hôpital Al-Shifa, alors que l'Organisation mondiale de la santé et les responsables palestiniens de la santé ont averti qu'ils avaient perdu la communication avec le personnel à l'intérieur de l'hôpital. Lors d'un briefing donné près de 12 heures après le début de l'attaque contre l'hôpital Al-Shifa, un haut responsable militaire israélien a déclaré que les soldats avaient découvert des armes à l'hôpital, centre de commandement opérationnel appartenant au Hamas, dans l'un des services de l'hôpital, d'après les sources israéliennes. Le Hamas a rejeté cette affirmation, la qualifiant de mensonge flagrant et de propagande bon marché, peut-on lire à la fin du reportage. En réaction à l'allégation des responsables militaires israéliens selon laquelle plusieurs armes avaient été découvertes à l'hôpital, le haut responsable du Hamas, Bassam Naïm, a déclaré mercredi « Nous nous attendions à de tels scénarios fournis par le régime d'occupation israélienne dans cet hôpital ». Le secrétaire général adjoint du djihad islamique, Mohammad al-Hindi, a pour sa part déclaré « Les paroles et les récits des forces d'occupation israéliennes sur le stockage d'armes à l'hôpital Al-Shifa sont de purs mensonges. » Au 41e jour de l'opération Tempête d'Al-Aqsa, les occupants sionistes sont entrés dans le complexe hospitalier Al-Shifa hier matin, après plusieurs jours de l'encerclement de l'hôpital à Gaza. La communauté internationale décrit l'incursion du plus grand hôpital de Gaza comme une violation flagrante des droits de l'homme. La situation prévalant dans l'hôpital est si désastreuse que Ashraf Al-Qudra, porte-parole du ministère palestinien de la Santé à Gaza, a déclaré il y a quelques jours « Après l'échec de nos efforts pour évacuer les corps de l'hôpital, nous avons informé la Croix-Rouge que nous avons commencé à enterrer les cadavres dans les charniers collectifs à l'intérieur de l'hôpital. »
Bonjour à toutes et à tous et merci de choisir l'émission Le Débat diffusée depuis la capitale iranienne Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Alors, dans le débat d'aujourd'hui, il sera question de l'approche partiale des États-Unis et des membres de l'Union européenne vis-à-vis des crimes barbares commis par Israël contre les Palestiniens. Alors, malgré les manifestations d'envergure qui s'organisent à travers presque le monde entier, pour pousser le gouvernement de faire pression sur Israël de cesser le génocide à l'encontre des Palestiniens, des femmes et des enfants palestiniens. Malheureusement, ces derniers ne font absolument rien, pas même condamner les crimes d'Israël. Alors comment prétendre d'être défenseur des droits de l'homme et fermer les yeux devant ces crimes? Je fais surtout allusion à la France. Alors Israël est apparemment totalement libre de ces mouvements tant qu'il aura le soutien des États-Unis et des membres de l'Union européenne dans ce génocide. J'ai le grand plaisir de vous présenter nos deux chers invités. Tout d'abord, Aïssar Midani, intellectuel, expert des questions internationales depuis Paris. Aïssar Midani, bonjour.
Bonjour et merci pour votre invitation. Merci à toute l'équipe et bonjour à votre invité.
Tout le plaisir est pour nous, Aïssar Midani. Un grand bonjour à Madame le docteur Gada Houbala, universitaire, expert des questions internationales, qui est avec nous depuis Beyrouth. Madame Gada Houbala, bonjour.
Oui, bonjour à vous et ainsi qu'à votre invité.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Ma première question va s'adresser à Aïssar Midani concernant, bien sûr, cette approche partiale des États-Unis et des membres de l'Union européenne vis-à-vis des crimes barbares commis par Israël contre les femmes et les enfants palestiniens. Bien sûr, Aïssar Midani, on ne peut pas expliquer et donc se justifier de ces crimes. Mais que pensez-vous, je vous prie?
Bah effectivement, je crois que de toute façon, ça a été dit par le Samahat Cheikh Nasrallah, le soutien essentiel d'Israël et qui rend Israël aussi agressif, c'est aussi le soutien essentiel mené par les États-Unis et tous les pays qui tournent dans le giron des États-Unis, ce qui fait que Israël a le feu vert pour faire tous les crimes qu'elle est en train de mener vis-à-vis du peuple palestinien. Mais des crimes sans limite, en fait. On a vu aujourd'hui qu'ils ont même envahi les hôpitaux. L'hôpital Al-Shifa a été envahi, l'équipe médicale a été malmenée et ils s'en prennent même aux blessés qui sont là. Donc c'est effectivement ce feu vert et ce soutien sans limite par les États-Unis fait qu'ils sont complètement complices dans les crimes, ils les poussent aux crimes. Et c'est en fait, ça nous permet de dire que ce sont les États-Unis qui combattent les Palestiniens avec leur outil qui est Israël dans la région. Alors, il est important de voir aussi historiquement la création, on parlait de la création de l'État d'Israël qui a été créé par les forces coloniales, impérialistes, français et britanniques, et puis par la suite repris par les États-Unis. Israël constitue leur extension dans la région, et leur présence dans la région du Moyen-Orient. Et puis leur outil de domination à la fois pour les sources d'énergie, du pétrole, du gaz, etc. Donc en fait, on voit à quel point ils tiennent effectivement à cet Israël qui défend leurs intérêts. Un autre point, il est important aussi de signaler que même c'est tellement abject et c'est tellement voyant que même aujourd'hui et hier, en fait, il y a 1200 journalistes américains ont écrit une lettre ouverte, en fait, qui dénonce justement cette partialité de l'État américain dans la manière de traiter Israël, ce feu vert sans limite. Malgré quelques déclarations timides de la part de l'État américain qui annonce qu'il ne serait pas d'accord pour l'invasion totale de Gaza, il ne serait pas d'accord pour l'invasion des hôpitaux, etc. Mais en fait, si Israël le fait, il faut être sûr que de toute façon, ils ont un feu vert total du côté des Américains. Et puis, on voit qu'il n'y a absolument aucun frein. Donc, c'est un État impérialiste comme les États-Unis. On sait qu'aussi, ils n'ont pas de frein dans leur criminalité. On sait qu'ils ont balancé des bombes atomiques contre les populations, qu'ils ont détruit l'Irak, ils ont tenté de détruire la Syrie, qui leur a résisté, et que jusqu'à aujourd'hui, la Syrie, elle est toujours sanctionnée de sa résistance et d'avoir aussi fait échec au plan américain dans la région. On a embargo et destruction qui continue et présence aussi américaine. Donc c'est clair que de toute façon, l'ennemi des peuples, ce sont les États-Unis en fait dans la région.
Absolument. J'aimerais beaucoup connaître la prise d'opposition de Gada Oubala qui est avec nous depuis Beyrouth. Alors, Madame Oubala, des manifestations d'envergure sont organisées à travers le monde entier pour pousser les gouvernements à faire pression sur Israël de cesser le génocide, mais en vain, vraisemblablement. Que pensez-vous, je vous prie, de cela?
Non, je ne suis pas tout à fait d'accord concernant que ces manifestations sont en vain, dans le sens où peut-être que, heureusement qu'il y a ces manifestations. Et je pense qu'ils ont établi un certain équilibre face au silence morbide des 52 États arabes et islamiques qui se sont réunis à Riyad il y a quelques jours et qui se sont contentés, dans la forme, c'était certes un sommet assez important, même au niveau du texte concernant la condamnation de l'entité sioniste au niveau de ses actions qui ont été qualifiées de crimes de guerre, c'est une première, mais aucune mesure n'a été prise, même concernant la proposition d'une solution de deux États. Quelle est la procédure qu'il faudrait faire, qu'il faudrait entreprendre, rien n'a été défini dans le communiqué, dans la déclaration finale du sommet. Par contre, les manifestations qui ont lieu dans tous les pays du monde, et surtout je veux saluer les manifestations qui ont lieu que ce soit aux États-Unis ou en Europe, même si au début il y avait une tentative de la part des autorités compétents sécuritaires dans ces pays d'empêcher justement ce genre de manifestations. Ces manifestations, en majorité, à 80%, sont des jeunes qui sont les jeunes qu'on appelle les victimes des réseaux sociaux. Or, entre guillemets, ces victimes se sont révélées être non pas des victimes. Ils ont d'abord su utiliser en prenant des initiatives personnelles. Ils ont su utiliser les réseaux sociaux pour dénoncer les crimes qui ont lieu à Gaza, pour également tenter de surmonter la censure de la part des médias et également de dénoncer le récit, je dirais, blasphématoire et mensongère qu'adoptent les médias occidentaux. Et donc, mine de rien, la majorité également sont des... ne sont pas des Palestiniens ou des Arabes ou des Noirs, ce sont vraiment, je dois parler ainsi, mais ce sont des Occidentaux, des Français de pure souche, des Américains de pure souche. Donc, ils sont descendus à la rue et ils ont fait des manifestations en Grande-Bretagne. Chaque semaine, ils sont en train d'augmenter à peu près de 100 000 personnes. C'est une première et c'est sur cela... Et c'est vraiment, ce sont ces manifestations qui peuvent peser lourd sur les gouvernements qui soutiennent l'entité sioniste dans ces crimes.
Madame Oubala, excusez-moi de vous interrompre, mais vous pensez vraiment que ces manifestations vont faire obstacle aux crimes commis par Israël dans la bande de Gaza?
C'est pas une question d'obstacle. Écoutez, le terme est un peu trop. C'est pas une question d'obstacle. C'est une question qu'ils vont faire. Certainement, ils vont jouer. Ils vont presser les gouvernements d'adopter un cessez-le-feu. Pour la simple raison que dans la majorité des pays, il y a des élections qui vont avoir lieu, que ce soit aux États-Unis ou en Grande-Bretagne. Et même en France. Et remarquez d'ailleurs le discours des responsables occidentaux, même il a changé de dureté, même si sur le terrain rien n'a été appliqué. Certes, le dernier mot est toujours celui qui gagne sur le terrain. C'est Saïd Hassan, le secrétaire général du Hezbollah, qui l'a dit, bien sûr. Et donc la seule solution à s'opposer aux crimes de guerre de l'entité sioniste, c'est justement de continuer à résister. Et elle ne cessera point que s'il y aura une défaite cuisante de l'entité sioniste. Mais encore, plus l'entité sioniste subit une défaite cuisante, plus ils vont commettre des crimes de guerre et plus ils vont commettre des crimes de contre l'humanité. Mais le seuil de ces crimes de guerre, de ces crimes de l'humanité, les États-Unis ne peuvent pas le supporter encore plus. Arriver, le temps ne joue pas en leur faveur Et je vous dis, la pression augmente de plus en plus sur l'administration américaine. Et vous l'avez dit dans votre reportage, que justement au sein de, et votre invité l'a bien rappelé, qu'au sein même de l'administration américaine, dans le département des affaires étrangères, Anthony Blinken a été obligé de publier un tweet compatissant avec justement les enfants qui sont en train de tomber en martyr dans cette agression de la part de l'entité sioniste. Parce que justement, il y a beaucoup de fonctionnaires publics au sein du département des affaires étrangères qui ne sont pas d'accord avec la gestion de l'administration Biden. Quid encore plus, vous avez la lettre qui a été envoyée par les diplomates français, une lettre ouverte au président Emmanuel Macron, lui rappelant que la France n'a jamais pris parti à 100% avec l'entité sioniste. Toujours dans l'histoire de la France, elle a toujours été, disons, une position pas neutre, mais mitigée. Donc, il y a des changements qui sont en train d'avoir lieu. Et si ces manifestations n'avaient pas un effet important sur le moral, justement, des Gazaouis et de la résistance palestinienne, que ce soit Abu Obaïda ou que ce soit Saïd Al-Koussi au Yémen, ou que ce soit le secrétaire général du Hezbollah, tous, même le porte-parole de Hamas, tous ont estimé que ces manifestations devraient se poursuivre pour augmenter la pression sur justement les gouvernements occidentaux. Il faut rappeler que le Vietnam, certes, les Vietnamiens ont, dans la guerre du Vietnam, les Vietnamiens avaient réussi à résister. Mais finalement, le dernier mot a été aux manifestations qui ont finalement provoqué la démission du président de l'époque.
Tout à fait. Donc, non, oui. Oui, absolument.
Donc non, ces pressions sont importantes. Maintenant, ce qui est désolant, c'est que vous avez des manifestations immenses dans les pays occidentaux et même en Amérique latine. Alors que dans les pays du Golfe Persique, il n'y a pas de manifestation. Mais ce peuple, j'ai aucune explication à ce sujet parce que les peuples du Golfe Persique, on les avait vus déclarer qu'ils étaient contre la normalisation quand il y avait le mondial du Qatar en 2022, je crois.
Absolument.
Bon. Mais où sont ces voix aujourd'hui?
Oui, tout à fait. Permettez-moi de demander l'avis de Aïssa Armidani. Est-ce que vous croyez que ces manifestations vont faire pression sur les gouvernements occidentaux pour faire pression sur Israël de cesser le génocide, à votre avis?
Je pense que ces manifestations sont une expression, en fait, des peuples pour montrer leur dégoût de tous les et leur dégoût des crimes israéliens d'un côté, de l'autre côté, un soutien à la cause palestinienne et surtout à l'indépendance de la Palestine. Il y a un palier qui a été franchi encore une fois dans cette guerre. Dans la prise de conscience du fait qu'au-delà de tous les mensonges qui sont diffusés autour de la question palestinienne, qu'il y a une prise de conscience que c'est un peuple, c'est une occupation, et c'est une occupation criminelle qui dure depuis 100 ans, et qu'il est temps de terminer cette occupation. Je crois que c'est quelque chose qui est très, très important, qui a été... Cette prise de conscience, elle est due effectivement à tout l'effort médiatique à la fois des médias résistants d'un côté, mais aussi des médias indépendants qui se trouvent donc effectivement sur les réseaux sociaux, mais qui expliquent la question, qui expliquent la question palestinienne, qui expliquent aussi les médias mensonges. Toujours à répétition, et qui explique aussi la question palestinienne. Donc ça, on peut dire que ces manifestations sont l'expression d'un palier dans la prise de conscience des peuples de ce qu'est la question palestinienne. Maintenant, d'un autre côté, c'est sûr que ces manifestations font une pression sur les gouvernements occidentaux, mais elle est loin d'être importante, je dirais, ou très grave, parce que moi, je voudrais rappeler quand même les manifestations pour empêcher la guerre en Irak hein, ou l'invasion de l'Irak. Elles ont été des millions aussi dans toutes les rues du monde occidental, en Angleterre, aux États-Unis, etc. Mais la guerre, l'invasion de l'Irak a eu lieu et sur la base d'un mensonge complètement incroyable qui était le fait la présence de guerre d'armes de destruction massive. Donc, je pense que le grand poids revient effectivement à la résistance des Palestiniens, à leur résilience aussi et à leur victoire quotidienne aussi contre pas seulement cette arrogance, mais cette criminalité sans limite des Israéliens et leur propre comportement, le comportement des Israéliens les dénonce et les enlise effectivement face au peuple et face au gouvernement. Ce qui veut dire en fait qu'il n'y a pas un gouvernement qui peut chercher un minimum, une certaine crédibilité aux yeux de son peuple ou aux yeux des autres peuples qui puisse soutenir, continuer à soutenir ad vitam aeternam ces crimes abjects et ces crimes contre l'humanité. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je tiens à dire quand même que les Israéliens, ils mènent une guerre féroce aussi contre la presse, contre les correspondants de presse, et ils ont cherché même à interdire, et ils ont interdit le bureau de presse d'Al-Mayadin de diffuser. Ils continuent à viser. Il y a quand même aujourd'hui 41 correspondants de presse qui ont été tués dans cette guerre. Donc, ils veulent en fait fermer les yeux du monde sur leurs crimes et continuer en silence. Et ça, c'est quelque chose de fort, de fou. Et je crois que notre devoir est de continuer à les dénoncer. Et ça joue son. C'est l'accumulation de.
Si vous permettez que je.
Oui, oui.
Continue, effectivement. Absolument. Tous ces facteurs font le poids. Pour stopper, mais ajouter aussi à la force d'opposition du peuple palestinien à ce pouvoir israélien pour la libération. Parce que la guerre, ce n'est pas pour gagner une bataille, ce n'est pas pour négocier une solution à deux États, c'est une guerre de libération de la Palestine.
Absolument.
Et c'est important de voir ça.
Absolument. Madame le docteur Gadaoubala, est-ce que vous voulez bien réagir, je vous prie?
Oui, alors, concernant ce qu'a dit votre invité, c'est vrai qu'elle a bien rappelé les manifestations millionnaires qui ont eu lieu concernant l'Irak. Mais quelle est la différence entre la guerre en Irak qui a été bâtie sur un mensonge à l'époque, comme tout le récit qui est actuellement mensongère concernant ce qui se passe à Gaza? C'est qu'il n'y avait pas, on n'avait pas commencé proprement dit dans la révolution numérique, c'est-à-dire il n'y avait pas les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux et ces réseaux sociaux sont une arme très importante pour nous en tant qu'universitaires, mais aussi pour tous les étudiants qui sont en train, je vous dis, de prendre des initiatives privées à ce sujet. Et autre chose, ce qui a été également, ce qu'il faut noter, c'est que beaucoup de tabous, avant justement, avant le déluge de l'Aqsa, n'avaient pas, on n'osait pas, par exemple, parler de l'Holocauste que s'il s'agissait des Juifs. Maintenant, au niveau des notions, au niveau des termes, on ose comparer ce qui se passe actuellement à Gaza à l'Holocauste, alors que c'était un tabou. Le terme Holocauste n'appartenait qu'aux Juifs, uniquement. Et si, donc ça maintenant, ce terme maintenant est utilisé pour Gaza. Les crimes de guerre, et moi je sais de quoi je parle parce que j'ai travaillé dans un des médias, on pouvait utiliser le terme crime de guerre pour les guerres que commettaient que provoquait l'entité sioniste. Mais si vous utilisez le crime contre l'humanité, qui est un niveau beaucoup plus supérieur, à ce moment-là, vous avez tout le lobby sioniste qui était contre vous. Et c'est ce qui s'est passé avec Al-Manar quand on a utilisé le crime contre l'humanité concernant le massacre de Kana. Quand il y a une population du Liban Sud qui s'est réfugiée sous le toit des casques bleus. Et ils ont été bombardés. À ce moment-là, à l'époque, à Al-Manar, ils ont utilisé le terme « crime contre l'humanité ». On a reçu un papier, une forme de condamnation. Ils ont demandé aux satellites arabes égyptiens d'empêcher, c'était en 2002, d'empêcher que Al-Manar puisse diffuser à travers ce satellite parce qu'on avait utilisé, imaginé à l'époque, le terme « crime contre l'humanité ». Alors qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On utilise le terme « crime de guerre », on utilise le terme « crime contre l'humanité ». Mieux encore, vous avez des avocats, même si cela va rester dans les paroles. Vous avez des avocats français qui ont dit que vous avez une armée d'avocats qui vont tenter de poursuivre en justice tous les responsables de ces crimes qui ont lieu contre les enfants. Donc, il y a un changement radical qui est en train d'avoir lieu dans la façon de penser ou dans la façon d'analyser ou de juger l'entité sioniste. L'entité sioniste n'est plus Israël comme un sacro-saint. Elle n'est plus intouchable. Au contraire, maintenant, aujourd'hui, on ose la critiquer. Et c'est ça, ce changement. Absolument. Est radical. Tout parce que cela peut construire plus tard. Cela est le début. Pour moi, cela est le début de la fin de l'entité sioniste. Hormis le fait que le déluge d'Al-Aqsa a détruit la notion de l'identité nationale de l'entité de sioniste, juif, mais au niveau des peuples, moi je trouve qu'on revient à l'époque où les peuples avaient le droit de parler, et c'est grâce aux réseaux sociaux, peut-être qu'on pourra parler de diplomatie des peuples.
Absolument.
Permettez-moi. Oui. Je peux ajouter.
Concluez, je vous prie, Aïssa Hamidani, en une minute, je vous prie.
En fait, c'est pas seulement les réseaux sociaux, mais c'est aussi la transformation du monde. Les États-Unis n'ont plus main basse sur le monde entier, comme c'était le cas dans les années précédentes. Qu'aujourd'hui, qu'il y ait un changement de rapport de force, qu'il y ait un nouveau monde qui naît contre l'hégémonisme, qu'il y ait les BRICS d'un côté, qu'il y ait la présence de la Chine, la présence de l'Iran en tant que grande force régionale, la présence de la Russie. Et il faut quand même rappeler que les États-Unis sont pratiquement défaits en Russie, en Ukraine. C'est pour ça aussi qu'ils se cherchent une victoire au Moyen-Orient à travers, Israël. Donc, il y a ce changement aussi qui donne une plus grande place, effectivement, non seulement au peuple et à leur voix, mais aussi à la lutte du peuple palestinien et qui ouvre l'horizon vers une véritable indépendance et une libération.
Espérons-le. Merci, Aïssa Hamidani, depuis Paris, d'avoir répondu à nos questions, hein, également à Gad Aoubala. Depuis Beyrouth, d'avoir répondu à nos questions et d'apporter beaucoup de précisions à l'émission du débat d'aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
La voix de la lumière.
Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange au prophète de la paix et de la clémence, le vénéré Mohammed. Que le salut de Dieu soit sur lui et sur ses descendants. Dans ce programme de la Voix de la Lumière, nous vous présentons la lecture, la traduction et l'exégèse des versets 25 à 28 du chapitre 47 du Noble Coran, la Sainte Sourate Mohammed. Restez avec nous jusqu'à la fin de la Voix de la Lumière d'aujourd'hui. Dans notre précédent programme, nous avons lu ensemble des versets du Noble Coran qui nous ont appris que la foi prend son sens avec la soumission à l'ordre de Dieu et à son noble messager, en s'abstenant de se soumettre aux propos irréfléchis et avancer des prétextes pour se rebeller. Ces propos déplacés risque d'affaiblir le moral des croyants et les empêche de prendre le chemin du djihad face aux ennemis de Dieu et de la religion. Si ces individus-là sont sincères, ils doivent participer au djihad contre les ennemis. Le Saint-Coran s'adresse aux gens de faible foi et leur prévient qu'il risquerait de semer la corruption sur la terre et de rompre leurs liens avec leurs proches en raison de ce qui pourrait être considéré, dans certains cas, comme hypocrisie. Dieu le Très-Haut maudit ces individus et les rend sourds et aveugles face à la vérité qu'ils s'obstinent à ne pas voir et à ne pas entendre. Ils risquent de revenir aux traditions erronées de leurs ancêtres, à se laisser porter par leurs désirs et leurs caprices, à nuire à leurs proches et à eux-mêmes. La racine de cette faiblesse dangereuse de la foi et des croyances religieuses réside dans le fait que ces individus ne méditent pas sur les enseignements du Saint-Coran, se soumettent à leurs désirs éphémères et s'opposent aux intérêts réels de la communauté et d'eux-mêmes. Dans ce programme de la Voix de la Lumière, écoutons d'abord le verset 25 de la Sainte Sourate Mohammed, puis nous vous en donnerons la traduction.
إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم.
Ceux qui sont revenus sur leurs pas après que le droit chemin leur a été clairement exposé, le diable les a séduits et trompés. Les gens qui tournent le dos au droit chemin que leur indique la religion, se laissent séduire et tromper par Satan. Dieu le Très-Haut montre à ses créatures le bon chemin du salut éternel à travers le message transmis par les prophètes et à travers les Écritures saintes. Cependant, il y a parmi les humains les égarés qui se perdent dans leur perdition, en se soumettant aux tentations sataniques qui les dirigent vers les ténèbres de l'égarement et les éloignent de la lumière de la guidance divine. Ce verset du Noble Coran nous apprend que les hypocrites, qui prétendent d'être pionniers, sont en réalité des rétrogrades qui induisent en erreur les gens et les font perdre dans leur égarement. La science et la connaissance ne suffisent pas à elles seules. Les fidèles doivent essayer de s'abstenir des péchés et de se mettre à l'abri des tentations sataniques en renforçant en eux la piété et la spiritualité. Écoutons maintenant
le verset 26 de la sourate 47 du noble Coran.
ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم.
C'est parce qu'ils ont dit à ceux qui ont de la répulsion pour la révélation de Dieu, nous allons vous obéir dans certaines choses. Dieu, cependant, connaît ce qu'il cache. Le Saint-Coran évoque que les hypocrites nouaient des pactes avec les juifs de la ville de Médine. Dans les affaires où les deux groupes avaient des intérêts communs, ils s'unissaient pour agir contre la communauté des musulmans. Cependant, les hypocrites faisaient tout pour cacher leurs intentions et ils essayaient d'agir de sorte que la réalité ne soit pas révélé au noble messager de Dieu, le vénéré Muhammad, que le salut de Dieu soit sur lui et sur ses descendants. Mais le noble Coran souligne que Dieu le Très-Haut savait parfaitement ce qui se passait dans leur cœur. Ce verset nous apprend que les croyants doivent rester vigilants, car il y a au sein de la communauté des malveillants et des hypocrites qui sont prêts à nouer des pactes avec l'ennemi à tout moment et à toute occasion. Les hypocrites essaient toujours de cacher leurs véritables intentions par divers moyens. Les fidèles doivent donc découvrir leurs desseins cachés et les déjouer. Écoutons enfin les versets 27 et 28 de la sainte sourate Muhammad.
فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم.
Qu'adviendra-t-il d'eux quand les anges les achèveront, frappant leur face et leur dos? Cela parce qu'ils ont suivi ce qui provoque la colère divine et qu'ils ont de la répulsion pour ce qui attire son agrément. Il a donc rendu vaines leurs œuvres. Les hypocrites pratiquent tout ce qui provoque la colère divine, et ils s'abstiennent de tout ce qui pourrait attirer sa grâce et son agrément. Mais arrivera le jour dans l'au-delà où les hypocrites seront jugés et châtiés pour leurs péchés et leur désobéissance au Seigneur dans le feu de l'enfer. Ils goûteront aussi ce châtiment au moment de la mort, quand les anges viendront les châtier sur ordre du Seigneur. La mort n'est pas la fin de l'existence de l'homme. Par contre, elle est le début d'une nouvelle phase de son existence. Pour les pieux et les croyants, il y aura la récompense divine et la vie dans le paradis céleste. Tandis que les pécheurs et les mécréants n'auront que du châtiment et le séjour éternel dans l'enfer. Chers auditeurs, ici s'achève la voix de la lumière d'aujourd'hui. La prochaine fois, nous vous présenterons la lecture et l'exégèse d'autres versets du chapitre 47 du noble Coran, la sainte sourate Muhammad. D'ici là, nous vous confions toutes et tous à la garde de Dieu.
Thank you. Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.